السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
le messie promis à l'Islam est ce champion de Dieu à qui Dieu a conféré le titre de Jari'ullah, c'est-à-dire de champion de Dieu. Pourquoi Dieu lui a-t-il conféré ce titre? C'est parce que dès son enfance, Dieu lui-même avait empli son cœur de l'amour pour Dieu, de l'amour à l'égard du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de l'amour à l'égard de l'islam. Et le Messie promis à l'islam ne laissait passer aucune occasion afin de défendre l'islam. Il a fait une étude profonde de toutes les religions du monde et sa connaissance était profonde à ce propos et il s'était occupé à prouver la supériorité de l'islam. Lorsqu'en Inde, les missionnaires chrétiens étaient au fait de leur supériorité et qu'ils avaient publié des centaines de livres à l'encontre de l'islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'ils avaient distribué un nombre incalculable de tracts, en ce faisant, ils ont essayé de mener les musulmans dans le giron du christianisme. Et quant à ceux qui ne s'étaient pas joints aux chrétiens, il y avait parmi eux d'innombrables musulmans qui ont commencé à nourrir des doutes concernant les enseignements de l'islam. Et dans la suite des assauts des chrétiens, les Aryas et les Brahmo Samaj sont eux aussi arrivés au fait de leur influence. Et les musulmans, au lieu de répondre à ces assauts, ils étaient divisés et ils se lançaient des fatwas de kufr les uns à l'encontre des autres. S'il y avait quelqu'un qui se souciait de l'état l'état déplorable de l'islam. Quelqu'un qui avait entrepris de défendre l'islam, ce fut uniquement Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Afin de briser les arguments des détracteurs de l'islam, il avait publié un ouvrage dont le titre était Brahin Ahmadiyya. Et dans cet ouvrage, il a prouvé que le Saint-Coran est la parole de Dieu et que le Saint-Coran est un ouvrage complet. Et de même, il a prouvé que la Nabouwa du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la Nabouwa la plus exaltée et que son statut est incomparable. Et il a étayé ses déclarations avec des arguments irréfutables et en ce faisant, il a secoué les détracteurs de l'islam. Et cela les a poussés à lancer des attaques encore plus viles à l'encontre de l'islam. Cette nouvelle méthode lancée par Mirza Ghulam Ahmad al-Islam pour défendre l'islam a été louée par bon nombre d'érudits. Ils avaient loué son ouvrage dans lequel il avait présenté les beautés des enseignements de l'islam. Mais lorsque le Messie premier d'Islam a lancé d'autres publications pour propager les enseignements de l'Islam, une couche de la communauté musulmane s'est liguée contre lui. Ils se sont liés avec les non-musulmans et ont commencé à le critiquer. Dans ses efforts pour répandre l'Islam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian était animé d'une grande ardeur. À ce propos, en citant un compagnon du Messie premier al-Islam, Abdullah Sanuri Saheb, Mirza Bashir Ahmad Saheb déclare qu'à l'époque, le Messie premier al-Islam avait publié 20 000 dépliants et tracts et il avait envoyé par la poste ces tracts à tous les souverains, à tous les ministres. Il avait envoyé ses publications aux écrivains, aux érudits et aux nawabs des différentes régions. À l'époque, il ne s'était pas encore déclaré messie et il transmettait ses publications en tant que mujaddid. Et dans ses publications, il a évoqué les beautés de l'islam. En tout cas, il a envoyé ce message aux quatre coins du monde. Mais cela n'a pas eu de grand effet dans le monde, mais en Inde, là où les gens croyaient qu'il allait prendre tous les musulmans et qu'il allait détourner les musulmans de leur foi, ces personnes ont été ébranlées par un séisme. Ils ont été ébranlés par cet ouvrage écrit pour la défense de l'islam. Et ils ont constaté que maintenant, on est en train de distribuer des publications et des annonces concernant les beautés de l'islam. Il est évident que les détracteurs de l'islam ont usé de tous moyens qu'ils avaient à leur disposition. Et comme je l'ai déclaré, certains musulmans, en raison de leur animosité à l'égard du Messie premier d'Islam, se sont ligués avec les non-musulmans. En tout cas, le Messie premier d'Islam a prié avec grande douleur. Il a déclaré que moi, je suis en train de défendre ta foi et l'honneur du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ton bien-aimé. Il a prié, « Oh Allah, aide-moi donc pour l'accomplissement de cette tâche. » Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de faire une retraite contemplative pendant 40 jours. Il voulait se retirer afin d'implorer Dieu et afin de le supplier, afin d'avoir des signes pour prouver la véracité de l'islam et du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Pour cela, tout d'abord, il a fait la prière istikhara pour savoir où mener cette retraite. Suite à cette prière d'istikhara, il fut informé qu'il devra mener cette méditation à Hoshiarpur. Donc, il est parti à Hoshiarpur pour mener cette retraite et il était accompagné de 3 personnes. Il y avait Hadrat Molvi Abdullah Sanouri Saheb, Hafiz Hamad Ali Saheb et M. Fateh Khan. Le Messie premier alayhi salam a écrit à un de ses amis de Hoshiarpur, Cheikh Mir Ali Saheb. Il a déclaré que « Je veux habiter à Hoshiarpur pendant 2 mois. Trouvez-moi une maison dans la région afin que je puisse en toute sérénité implorer Dieu et supplier Dieu. » Et il a informé ses compagnons que « Au cours de cette période, personne ne doit me rencontrer. » Personne ne doit venir me contacter. En tout cas, Cheikh Saheb lui a trouvé une maison hors de la ville et le 22 janvier 1886, il est arrivé dans cette maison pour mener sa retraite. Il est parti au 2e étage et il a donné des directives à ses compagnons, à savoir que personne ne doit le rencontrer et personne d'entre vous ne doit me parler. Et lorsque vous allez m'apporter de la nourriture, posez la nourriture dans ma chambre et je vais le consommer si je dois en consommer. En tout cas, au cours de cette retraite, Dieu lui a révélé nombre de choses. Et le 20 février 1886, il a publié une annonce et il a envoyé cela dans différents endroits. On y trouvait mention de nombre de prophéties, des prophéties qui se sont accomplies au cours de sa vie, qui se sont accomplies après. Mais au sein de la Jamaat, tous les 20 février, on organise un programme où l'on évoque cette partie de la prophétie. Donc aujourd'hui, je vais mentionner cette prophétie et son accomplissement dans une certaine mesure. Cette prophétie concerne la prophétie d'un fils promis. Aujourd'hui, par un heureux hasard, on est le 20 février aussi. Donc, dans cette prophétie, il a révélé la venue d'un fils promis, un fils qui va posséder plusieurs qualités. Et comme je l'ai déclaré, il a fait cette prophétie lorsqu'il demandait à Dieu de lui accorder des signes concernant la véracité de l'islam et du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il demandait aussi des preuves ou des signes à Dieu afin de clouer le bec des adversaires de l'islam. Cette prophétie n'est donc pas une prophétie insignifiante. Cette prophétie est un signe pour prouver la grandeur de l'islam. Et tel est le décret de Dieu. L'année où il a eu la permission d'accepter le serment d'allégeance de ses compagnons, ce fut cette même année, c'est-à-dire en 1889, que naquit ce fils promis.
Aussi
En tout cas, je vais présenter les paroles de cette prophétie. Dans cette annonce, il a déclaré que la première prophétie me concerne et je le publie aujourd'hui, le 20 février 1886, c'est-à-dire le 15 Jamadul Awal. Je vais présenter quelques points de cette prophétie, déclare-t-il, et je vais présenter les détails après. Dans cette prophétie, Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, s'est adressé à moi et il a déclaré qu'il va m'accorder un signe de sa grâce. Il va m'accorder un signe de sa grâce suite à mes supplications. Il a déclaré, j'ai écouté tes suppliques et j'ai exaucé tes prières de par ma grâce. Et j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et je t'accorde un signe de ma proximité. Je t'accorde des signes de faveur et les clés de la victoire te sont offertes. Ô Muzaffar, paix soit sur toi. Voilà ce qu'a déclaré Dieu afin que ceux qui désirent la vie puissent se libérer de la mort et afin que ceux qui sont dans leur tombe puissent en sortir et afin que les gens puissent reconnaître le statut de l'islam et afin que la vérité vienne avec toutes ses bénédictions et afin que le mensonge disparaisse et afin que les gens comprennent que je suis le Tout-Puissant et que je fais ce que je veux et afin qu'ils soient sûrs et certains que je suis avec toi et afin que ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui rejettent la foi de Dieu et le livre de Dieu et ceux qui rejettent son prophète béni Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam afin que ces gens puissent voir un signe clair et évident et afin que les voies des coupables soient évidentes. Donc, béni sois-tu, car tu auras un fils pur et béni. Il sera pur. Ce fils sera de ta progéniture. Il sera de ta descendance. Il y a un beau fils qui viendra à toi. Il sera ton invité. Son nom est Emmanuel Ebashir. Il est immaculé. Il est pur de tout péché, de tout défaut. Il est la lumière de Dieu. Béni soit ceux qui viennent du ciel. Il est accompagné de faveurs et il viendra et possédera de grands trésors et il guérira nombre de gens grâce à son souffle messianique et grâce à l'âme de la vérité. Il est la parole de Dieu. Allah, dans sa gloire, l'a envoyé avec ses paroles. Il sera très intelligent, imbu d'une grande compassion, et il possédera des connaissances évidentes et les connaissances des choses cachées. Il transformera 3 en 4. Le Messie premier l'Islam déclare que je n'ai pas compris ce point. Et il a déclaré, ce sera un lundi béni, la première et la dernière manifestation. La manifestation de la vérité, qu'Allaha nazala minas sama, sa venue sera bénie et ce sera la venue de la gloire de Dieu, lumière sur lumière. Il sera envoyé par Dieu et nous allons lui insuffler notre esprit et l'ombre de Dieu va le couvrir et Dieu l'a parfumé de son plaisir. Il sera le libérateur des prisonniers, il sera connu jusqu'aux confins de la terre et les peuples seront bénis par lui. Et c'est là qu'il quittera ce bas monde. Voilà donc les paroles de cette prophétie. Si l'on étudie tous les points de cette prophétie, l'on constatera qu'il y a environ 52 points qui ont été évoqués. Et si on lit aussi les autres paroles des prophéties, en tout, on constatera qu'il y a 59 points qui ont été évoqués par rapport à ce fils promis. Voilà donc cette grande prophétie qui a été révélée au Messie premier de l'Islam. Et il a déclaré que ce fils naîtra dans une période de 9 ans et qu'il possédera ces qualités qui ont été évoquées plus haut. Je ne pourrai pas aller en détail ici, mais on doit savoir qu'après cette prophétie, lorsque le Messie premier a fait cette annonce, après quelque temps, une fille naquit dont le nom était Ismatullah. Les détracteurs du Messie premier l'ont persiflé, ont déclaré que cette prophétie est fausse. Il a déclaré que j'ai donné une période de 9 ans et je n'ai pas annoncé que cet enfant naîtra immédiatement. Mais après quelque temps, un garçon naquit dont le nom était Bachir. Ce fils est connu sous le nom de Bachir le premier. Mais alors qu'il n'était qu'un nourrisson, il est décédé et ses détracteurs l'ont raillé davantage. Avant la naissance de ces deux enfants, lorsqu'il avait publié cette prophétie, le pandit Lekram a publié une contre-prophétie en usant de paroles vulgaires pour chaque point évoqué dans la prophétie du Messie premier Islam. Par exemple, dans la prophétie, il est dit que tu auras un fils pur, il sera de ta progéniture, de ta descendance. L'Ikram a écrit par contre que Dieu m'a révélé que ta descendance arrivera à sa fin rapidement. Tout au plus, tu seras connu pendant 3 ans au plus. Et si tu auras un fils, il ne sera pas un signe de grâce, mais un signe de disgrâce. Et il a dit nombre de choses vulgaires. Aujourd'hui, à part le fait que cette prophétie concernant le Fils promis s'est réalisée, Dieu a réalisé aussi ses autres promesses concernant les descendants du Messie promis l'Islam, à savoir que sa mission se répandra grâce à ses descendants. Et de ce fait, les descendants directs du Messie promis l'Islam sont répandus dans les quatre coins du monde. Et on ne sait pas où sont les descendants de l'Ikram, s'il existe des descendants de l'Ikram. Et de toute façon, partout dans le monde, on voit les enfants spirituels du Messie promis l'Islam. Partout, ces enfants spirituels sont en train de briller, tels des étoiles. En tout cas, après le décès de Bachir, premier, les détracteurs du Messie premier l'Islam jubilaient et les compenses de l'Ikram s'exultaient davantage. Le Messie premier l'Islam a déclaré que Dieu a dit qu'il faudra attendre la fin de la période mentionnée. Si vous dites que cette période est longue, sachez alors qui peut donner la garantie que je pourrais vivre tout ce temps pour voir l'accomplissement de cette prophétie. Et l'on peut dire aussi qu'il n'a fait qu'une supposition, car les gens ont des fils et des filles. Le Messie premier l'Islam a déclaré, « Quelle garantie ai-je que je pourrais vivre assez de temps pour voir la naissance de ce fils ?» Où les gens peuvent déclarer qu'il n'a fait que prononcer des paroles, tout comme l'Ikram a fabriqué des révélations et des prophéties de toutes pièces. Mais le Messie premier l'Islam a déclaré qu'avec la naissance de ce fils, il y aura des signes. Et quand ces signes vont s'accomplir, les gens vont voir cela de visu et ils vont comprendre que cette personne qui a fait cette annonce est de la part de Dieu et qu'il a reçu cette nouvelle de la part de Dieu et qu'il est sur la vérité. Il est dit que ce fils possédera des qualités spéciales et cette période de 9 ans ou plus ne réduit en rien l'importance de cette prophétie. Au contraire, le cœur témoigne que cette prophétie est grandiose. Cette prophétie qui concerne une personne importante est au-delà des capacités de l'homme. Il déclare donc qu'ici on n'a pas donné la nouvelle de la naissance d'un fils, mais il est dit que ce fils naîtra au cours d'une période spécifique, qu'il sera connu, qu'il va répandre le nom du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et qu'il sera connu dans les quatre coins du monde. En tout cas, les ennemis de l'islam ont soulevé des objections sur cette période de 9 ans et ils étaient ravis du décès de Bachir Ier. En évoquant le décès de son fils Bachir, le Messie premier d'Islam déclare que la deuxième critique émise est que ce fils évoqué dans la prophétie du 8 avril est décédé alors qu'il n'était qu'un nourrisson. La réponse est que je n'ai jamais dit que ce fils vivra longtemps ou que cette prophétie s'applique à lui et que c'est lui le réformateur promis, c'est-à-dire cela concerne Bachir Ier. Le Messie promis, alayhi salam, annonce que dans la publication du 20 février 1886, il y avait des prophéties concernant mes fils, à savoir qu'un de mes fils décédera tout enfant. Donc, une des prophéties s'est réalisée ici. Et dans les révélations que j'ai publiées, on trouve mention du décès de ce fils. Dans l'annonce du 20 février, il est dit qu'un beau-fils viendra et qu'il sera ton invité. Voilà les paroles de la prophétie. Ici, on a utilisé le terme « invité ». Cela fait comprendre que cet enfant ne vivra pas longtemps et qu'il décédera alors qu'il ne sera qu'un nourrisson. Car un invité est celui qui ne reste que quelques jours et qui quitte son hôte. Celui qui accueille les autres, celui qui s'occupe des autres, n'a pas le titre d'invité. Et il est aussi dit dans la prophétie que ce fils sera exempt de péché. Cela est une autre preuve qu'il mourra alors qu'il ne sera qu'un nourrisson. L'on ne doit pas croire que cette partie de la prophétie s'applique au Muslim Maoud, à ce réformateur promis. À la lumière des révélations que j'ai reçues, j'ai compris que cette partie de la révélation concerne le fils décédé. Et la prophétie qui concerne le fils promis débute avec cette phrase où il est dit, je cite, qu'il sera accompagné de faveurs divines. Les premières phrases donc de la prophétie concernent ce premier fils, c'est-à-dire Bachir Ier. Et le Messie premier d'Islam déclare que les paroles de la prophétie qui concernent le fils réformateur promis débutent avec ces paroles qu'il sera accompagné avec les faveurs divines. Donc, on lui a donné le titre de réformateur. Son deuxième nom est Mahmoud et son troisième nom est Bachir II. Et il porte aussi le nom de Fazl-e Omar. Et ce réformateur naîtra après la naissance et le décès du premier Bachir. D'où cela dépend de la sagesse divine. Et Bachir Ier est le précurseur du deuxième Bachir. C'est pour cette raison que les deux ont été mentionnés dans la même prophétie. Fin de citation. Donc, le 12 janvier 1889, 3 ans après la publication de cette prophétie, naquit ce fils du Messie premier l'Islam, Mirza Bachiruddin Mahmoud Ahmad. Dans son ouvrage Sirul Khilafa, en 1894, le Messie promis alayhi salam déclare que mon fils Bachir est décédé alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Cela concerne donc le premier Bachir. Dieu m'a révélé que nous allons te le renvoyer. Et la mère de cet enfant a vu en songe que Bachir est venu et qu'il l'a rencontré. Et il a déclaré que je vais prouver mon amour et je ne vais pas partir. Et après cette révélation et ce rêve, Dieu m'a donné un autre fils et j'ai compris que ce Bachir est ce Bachir promis. Et je lui ai donné donc le nom de Bachir et je vois en lui les traits du premier Bachir. Les prophéties du Messie promis alayhi salam se sont accomplies avec éclat en la personne de ce fils promis, c'est-à-dire Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Le monde en a témoigné. Il fut élu deuxième calife après le décès du premier calife et par la grâce d'Allah, son califat a duré 52 ans. Et au cours de son califat, la Jamaat s'est établie à l'extérieur de l'Inde et la Jamaat a progressé à l'extérieur et c'est aussi une autre preuve de la véracité de cette prophétie. Il est impossible d'embrasser toute la période de son califat. Mais pour l'instant, je vais présenter quelques signes de l'accomplissement de cette prophétie. Je vais évoquer les paroles du Muslim Maud et les paroles des non-Ahmadis à ce propos. Je dois aussi dire ici que le deuxième calife n'a pas annoncé qu'il était le fils promis tant que Dieu ne lui avait pas donné la permission de faire cette annonce. Ensuite, lorsqu'il a reçu la nouvelle de la part de Dieu en 1944, il a annoncé qu'il est ce Muslim Maud, ce fils promis. Et que c'est grâce à lui que le nom de l'islam se répandra dans les quatre coins du monde et que c'est grâce à lui que l'unicité de Dieu va s'établir sur terre. Je vais présenter tout d'abord le témoignage des non-Ahmadis à propos de l'accomplissement de cette prophétie. Un érudit non-Ahmadi, Molvi Samiullah Khan Farooqi, a publié un tract dont le titre était « La manifestation de la vérité avant la création du Pakistan ». Il a déclaré que le Messie premier l'Islam a dit que je vais établir ta Jamaat grâce à une personne de ta descendance et que je vais lui octroyer ma proximité et des révélations et que la vérité va se répandre et nombre de gens vont accepter cette vérité. Cet érudit musulman déclare, lisez cette prophétie et dites-moi si cette prophétie ne s'est pas réalisée. Lorsqu'il a fait cette prophétie, le calife actuel, c'est-à-dire le deuxième calife, était un enfant et jamais le Messie ou Mirza Ghulam Ahmad n'a laissé le testament qu'il doit être choisi comme calife. Ce fut à la communauté d'élire le calife et la majorité a accepté Molvi Nuruddin comme le premier calife et les autres se sont moqués davantage de cette prophétie. Mais après le décès du premier calife, Hakim Saeb, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad fut élu deuxième calife et il est plus que vrai que la communauté a fait de grands progrès extraordinaires durant son califat. Il y avait peu d'Ahmadis à l'époque de Mirza Saeb, il n'a pas eu de grands progrès à l'époque du premier califat. Mais à l'époque du deuxième califat, la Mirzaïa a atteint les quatre coins du monde. Et en 1931, leur nombre a doublé alors que leurs opposants ont fait encore plus d'efforts qu'auparavant pour les anéantir. Voilà donc les points de vue d'un érudit non-Ahmadi. Il n'avait pas peur de dire la vérité. Il n'est pas comme ces oulémas aveugles d'aujourd'hui. Il déclare « Donc cette prophétie s'est réalisée par le biais d'une personne de sa descendance et la Jamaat a fait de grands progrès grâce à cela et cela prouve que la prophétie de Mirza Saheb s'est réalisée à la lettre. » Un journaliste non musulman, M. Arjan Singh, éditeur du journal Rangin d'Amritsar, de l'Inde déclare qu'en 1901, Mirza Saheb, c'est-à-dire le Messie premier d'Islam, a fait une prophétie concernant son fils Mirza Bashir. Mirza Bashir était un enfant à l'époque. Ici, ce journaliste est en train de citer un poème qui se trouve dans Dour al-Famin où le Messie premier d'Islam a dit que je te donne la bonne nouvelle d'un fils qui sera mon bien-aimé un jour et je dissiperai les ténèbres et j'apporterai une révolution grâce à lui. Le journaliste continue et déclare que cette prophétie peut étonner. En 1901, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad n'était pas un grand érudit et sa perspicacité politique n'était pas encore connue. Dire à l'époque que j'aurai un fils qui possédera telle ou telle qualité est la preuve d'une force spirituelle. On peut dire que puisque Mirza Saheb avait fait une proclamation, il s'attendait à ce que son fils le succède. Mais cela est tout à fait faux, car Mirza Saheb n'a pas mis en place le califat et il n'a pas mis la condition que le calife doit certainement être de sa descendance et de sa famille. Et nous voyons que le premier calife ne fut pas de la famille de Mirza Saheb. Et après le décès du premier calife, il fut fort possible que Mirza Mahmoud ne soit pas élu comme le deuxième calife. Et après le décès du premier calife, Maulvi Muhammad Ali, Amir Jamaat Lahore avait espoir qu'il allait être choisi comme calife, mais la majorité a choisi Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad et il fut élu comme calife. Monsieur Arjan Singh écrit que si Mirza Saheb n'avait aucune force spirituelle qui agissait en lui, comment avait-il pu savoir qu'il aura un fils qui possédera telle ou telle qualité? À l'époque, il avait trois fils. Il priait pour ses trois fils et la prophétie est faite à propos d'un seul. Et nous voyons que cette prophétie s'est bel et bien réalisée et a apporté une révolution dans le monde. Ensuite, dans la prophétie, il est dit que il viendra afin que les gens reconnaissent le statut de l'islam et de la parole de Dieu. Je vais présenter le témoignage des non-Ahmadis. Maulvi Zafar Ali Khan, un grand leader musulman et un grand orateur, écrit dans le journal Zimidar à propos du Messie premier l'Islam et du deuxième calife. Il déclare « Ouvrez les oreilles, vous et vos comparses, vous ne pourrez pas vous mesurer à Mirza Mahmoud Saheb. Il possède le Coran et la connaissance du Coran et vous ne possédez rien. Même dans vos rêves, vous n'avez pas lu le Coran. Mirza Mahmoud a une telle jamaat qui est prête à tout sacrifier à ses pieds. Il a des missionnaires, il a des érudits, il place son étendard d'or dans chaque pays. » Ensuite, il y a la prophétie qu'il sera doué d'une grande détermination et qu'il possédera la connaissance des choses évidentes et cachées. Et à ce propos, un grand journaliste, Raja Hassan Nizami de Delhi, a présenté son témoignage à propos du deuxième calife. Il écrit qu'il était tout le temps malade. Dès son enfance, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad était tout le temps malade lui-même. Il a dit que ses yeux étaient malades et qu'il ne pouvait rien lire, que ses yeux étaient enflés et que ses enseignants s'en étaient plaints. Mir Nasir Nawab s'en est plaint au Messie premier l'Islam, à savoir qu'il ne sait pas compter, qu'il ne sait pas lire. Le Messie premier l'Islam repoussait la critique en riant, en disant qu'il n'est pas là pour faire un business quelconque, il n'est pas là pour être employé par quiconque. Et il demandait l'opinion de Maulvi Nuruddin et il répondait que tout va bien. En tout cas donc, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad n'a pas fait de grandes études formelles. Et pour son enseignement religieux, il écoutait les discours du premier calife. Mais il a été dit qu'il possédera la connaissance des choses évidentes et cachées. À ce propos, Raja Hassan Nizami de Delhi déclare qu'il était souvent malade, mais cela ne l'empêchait point de travailler. Face à une tempête d'opposition, il a travaillé dans une grande sérénité et il a mis en exergue sa bravoure de Mongol. Car les Mongols étaient très aptes, il a une grande perspicacité politique et un grand savoir religieux. C'est un grand stratège, il sait user de sa plume et de son intelligence. Ensuite, dans une des prophéties, il a été dit qu'il va libérer les prisonniers. Voyez comment cette prophétie s'est réalisée. Aujourd'hui, on dit que nous sommes contre le djihad et contre les Cachemiris. Mais je vais évoquer les efforts du deuxième calife à propos des Cachemiris. C'est lui qui avait lancé le plan de la libération du Cachemire. Il était le président du All India Kashmir Committee. Et dans ce comité, il y avait de grands leaders musulmans, à l'instar de Sir Zulfikar Ali Khan, le docteur Mohamed Iqbal, Raja Hassan Nizami, Sayyid Habib. Tous ces grands leaders avaient choisi Hadrat Khalifatul Masih Thani, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, comme le président de ce comité. Et par la grâce d'Allah, les musulmans du Cachemire, qui n'avaient aucun droit pendant des siècles, même les droits les plus fondamentaux, ces musulmans ont eu la liberté. Et la presse musulmane a loué le calife et ils ont déclaré qu'à l'époque où la situation des Cachemiris était des plus précaires, les membres du comité, en dépit de leurs divergences religieuses, ont fait le meilleur choix en élisant Mirza Saheb comme le président du comité. Si, en raison des divergences religieuses, il n'avait pas élu Mirza Saheb, ce mouvement aurait été un échec. Et cette Umma spoliée aurait subi de grandes pertes. Abdul Majid Salik Saheb évoque ce sujet en disant que Cheikh Mohamed Abdullah et ceux qui ont travaillé pour le Cachemire avaient des liens avec Mirza Mahmoud Ahmad Saheb. Et la raison de ces liens est que Mirza Saheb avait de grands moyens. Et ils avaient ces liens avec Mirza Saheb car ils aidaient le mouvement de la libération du Cachemire. C'est pour cette raison que les Cachemiris lui étaient tous reconnaissants. Sayyid Habib Saheb, qui est un journaliste très connu et qui était l'éditeur du journal Siyasat Lahore, il était aussi le membre du comité All India Kashmir. Il a fait une déclaration lorsque le deuxième calife a donné sa résignation. Il a déclaré que, selon moi, en dépit de leur aptitude, Dr. Mohamed Iqbal et Malik Barkat Ali Saheb ne pourront pas diriger ce comité. Et il sera évident tous qu'à l'époque où la situation des Cachemiris était les plus précaires, les membres du comité, en dépit de leurs divergences religieuses, ont fait le meilleur choix en élisant Mirza Saheb comme le président du comité. Si, en raison des divergences, ils n'avaient pas élu Mirza Saheb comme le président du comité, ce comité n'aurait pas eu de succès. Le départ de Mirza Saheb signifie la mort de ce comité. Le monde verra maintenant la justesse de notre choix en ayant élu Mirza Mahmoud Saheb. En commentant ce propos, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Saheb déclare qu'après une lutte qui dura peu de temps, on a pu établir un tel système qui a renforcé les Cachemiris et le gouvernement britannique a dû jeter l'éponge. Et ces musulmans qui étaient asservis pendant des siècles ont pu retrouver la liberté et ils ont eu une assemblée, il y a eu la liberté de la presse, les musulmans ont pu avoir les mêmes droits que les autres dans le domaine de l'emploi, ils ont eu le droit de propriété sur la terre, il y a eu l'éducation et d'autres portes se sont ouvertes à eux. Et dans leur manifestation, les Cachemiris ont chanté le slogan « Longue vie à l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, longue vie au président du comité ». Les Cachemiris avaient donc été asservis pendant des siècles et il y avait plein de restrictions sur eux. Le deuxième calife commente à ce propos. Il déclare qu'une fois, nous sommes partis au Cachemire et nous avions beaucoup de bagages. J'ai demandé à un fonctionnaire de nous trouver quelqu'un pour porter nos bagages. Une personne marchait sur la route, il a arrêté, a demandé de porter nos bagages. Après quelque temps, cette personne a commencé à s'en plaindre. Je lui ai dit que les Cachemiris sont solides et tu n'arrives pas à porter ces bagages. Il a répondu que moi, je suis un grand propriétaire terrien de ma localité et aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Je marchais sur la route et il m'a arrêté. Mais puisque ces fonctionnaires en maître ici, c'est pour cette raison que je n'ai rien pu dire. Donc, même les notables ne pouvaient rien dire à un simple fonctionnaire de l'État à l'époque. Ensuite, concernant la question de la connaissance et de la connaissance du Saint-Coran, Allama Niaz Fatehpuri Saheb écrit que j'ai entre mes mains le troisième volume du Tafsir Kabir et il n'y a pas de doute que Mirza Mahmoud Saheb a montré un nouveau angle dans l'étude du Saint-Coran. C'est le premier commentaire du Saint-Coran de ce genre. C'est un commentaire qui est en accord à la raison. Et dans chaque parole de ce commentaire du Saint-Coran, l'on découvre l'érudition, la perspicacité, l'étendue de la pensée et l'équilibre de Mirza Mahmoud Saheb. Il est malheureux que j'en ai pas été informé auparavant. Si seulement j'avais pu lire tous les autres commentaires, j'étais vraiment ravi de lire ces commentaires sur le prophète Lot mentionné dans la Sourate Hud, et j'étais contraint de l'écrire et de le louer sur les commentaires qu'il a fait sur les filles du prophète Lot et du fait qu'il s'est démarqué des autres exégètes du Coran. Les autres exégètes allèguent que le prophète Lot a demandé aux autres de prendre ses filles et de ne pas harceler ses invités. Mais le Muslim Aoud a présenté de nouveaux commentaires à ce propos. Ensuite, à propos du Saint-Coran, Allama Abdul Majid Yalbadi écrit qu'Allah le récompense pour la diffusion du message du Coran et de l'islam et des efforts qu'il a fait en ce sens jusque dans sa vieillesse. Qu'Allah le récompense donc pour tous ses efforts. Et ses commentaires du Saint-Coran sont vraiment d'un très haut niveau. Ensuite, de la prophétie, il a été dit qu'il aura la connaissance des choses manifestes et cachées. Le Muslim Aoud, le deuxième calife lui-même, a expliqué cela et il a dit que cela ne veut pas dire qu'il va étudier ses connaissances manifestes, mais que c'est Allah lui-même qui va lui enseigner tout cela. Il déclare donc que cette étude ne signifie pas l'étude de la science ou des mathématiques, mais il est dit qu'il sera comblé de cette connaissance, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va lui enseigner ces choses. Et Dieu n'enseigne pas la science ou la géographie, Dieu enseigne la foi et la religion. Donc, il a été dit que Dieu va lui enseigner cela, cela veut dire que c'est Dieu qui va l'enseigner tout cela. Dieu lui-même sera son enseignant. Il déclare que j'ai vu en songe comment Dieu m'a enseigné le Coran. Il décrit donc un de ses rêves. Il déclare que j'étais debout quelque part et j'étais tourné vers l'est. J'ai entendu une cloche sonner au ciel. Il y avait un tintement au ciel et ce son s'est répandu au ciel. Ce son a augmenté et ce son a recouvert le ciel tout entier. Ensuite, ce son s'est personnifié en une image. C'était l'image d'un très beau personnage et j'ai vu quelqu'un qui bougeait. Cette personne a déclaré que je suis l'ange de Dieu. Il s'est présenté à moi et a dit que c'est Dieu qui m'a envoyé afin de t'enseigner les commentaires de la sourate Al-Fatiha. Je lui dis enseignement. Il a continué à m'enseigner et lorsqu'il est arrivé au verset Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, il a déclaré que tous les exégètes du passé sont arrêtés à Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, mais moi, je vais t'enseigner les commentaires des versets qui suivent. Et il a continué à m'enseigner, et en fin de compte, il m'a enseigné toute la sourate Al-Fatiha. Ensuite, il déclare que dans cette prophétie, il a été dit que je serai comblé des connaissances des choses cachées. Cela concerne des choses qui concernent Dieu, qui concernent l'invisible. Une connaissance qu'il accorde à ses choisis, à qui il a confié des tâches spécifiques, afin qu'il démontre la relation qu'il a avec ces personnes. Et grâce à cela, il ranime aussi la foi des autres. À ce propos, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad a évoqué un autre rêve qui était à propos de la guerre. Cela concerne la Deuxième Guerre mondiale. Et ce fut un rêve qui s'est accompli. Il a déclaré que dans un songe, j'ai vu que j'étais au Royaume-Uni et le gouvernement britannique que c'est moi qui dois protéger le pays. Je leur ai répondu que je dois examiner l'état de vos fonds. Je veux voir ce que vous possédez et ensuite je pourrai dire si je pourrais vous protéger ou pas. Et l'état m'a présenté ses forces armées. J'ai étudié ses forces armées et en fin de compte, j'ai dit qu'il vous manque des avions. Si vous me donnez des avions, je pourrais protéger le Royaume-Uni. Après ces paroles, j'ai vu un télégramme qui était venu des États-Unis d'Amérique et il y était dit que le gouvernement américain a délivré 2800 avions au gouvernement britannique. Et ensuite, je me suis réveillé. J'ai raconté ce rêve à Chaudhry Mohammad Zafullah Khan Saheb. Et après quelques jours, alors que j'étais à la mosquée, on m'a dit que quelqu'un a téléphoné. C'était Chaudhry Zafullah Khan. Il m'a demandé si j'ai lu les journaux. Il a déclaré que votre rêve s'est réalisé. Et il y a une nouvelle qui s'est répandue que le gouvernement américain a offert 2800 avions de guerre au gouvernement britannique. Il y a aussi un rêve à propos du roi de la Belgique et le deuxième calife a déclaré au cours d'une vision, j'ai vu quelque chose qui s'est réalisé après 3 jours. J'ai vu une personne qui se tenait debout sur une plaine sombre. Cette personne portait une uniforme verte et on m'a fait comprendre que c'était un roi et ensuite on m'a révélé abdiqué. J'ai évoqué cette vision le 26 mai, alors que les gens priaient pour la victoire des Britanniques. Et j'ai interprété ce rêve en disant qu'un roi sera contraint d'abdiquer ou qu'il y aura un changement par un roi qui aura abdiqué. Après presque 3 jours, Léopold, le roi de la Belgique, a abdiqué à la surprise générale. Abdiquer signifie renoncer à agir ou être déclaré vaincu, ou renoncer à son autorité. C'est-à-dire que soit que cette personne est en train d'annoncer qu'elle renonce à son autorité, ou c'est la situation qui le contraint par défaut. Et cela s'est passé ainsi. Et le gouvernement de la Belgique a utilisé ces paroles. Ils ont déclaré que le roi belge se trouve entre les Allemands, il ne peut rien faire. Alors nous allons, en tant que gouvernement belge, représenter la Belgique. Ensuite, à propos de sa propre personne, le deuxième calife déclare qu'Allah sera tout le temps son protecteur. Et il a été dit qu'il sera tout le temps protégé de ses ennemis. Le deuxième calife déclare à ce propos que je n'ai pas eu de révélation qui dit que je serai à l'abri d'un assassinat. Voyez comment Allah m'a accordé sa protection. Je n'ai pas eu de révélation qui dit que je serai à l'abri d'un assassinat, mais j'ai la certitude que tant que ma tâche ne sera pas accomplie, personne ne pourra me tuer. Les gens ont essayé de me tuer à plusieurs reprises, mais Allah m'a protégé de leurs attaques. Au cours de mes discours, j'ai l'habitude de prendre quelques gorgées de thé afin d'humidifier ma gorge. Et au cours d'un discours, une personne a envoyé une tasse de crème de lait et a déclaré que transmettez cela au calife car il était en train de s'affaiblir. Donc les gens se sont passés la tasse et en fin de compte, cette tasse est arrivée à l'estrade. Sur l'estrade, une personne s'est souvenue qu'il doit goûter cela et elle en a goûté. Et du coup, il a compris qu'il y avait du poison dans cette tasse. Et si moi j'en buvais, j'en aurais été affecté. Et j'aurais dû arrêter mon discours. Ensuite, il est dit qu'une fois, un Pashtun était armé d'un couteau et est venu voir le deuxième calife, et Abdul Wahid Khan Saheb, qui se trouvait là, a reconnu cette personne et a constaté qu'il avait des armes avec lui. Ensuite, à propos de la libération des prisonniers, le deuxième calife déclare que toute personne qui réfléchit sur cette situation sera contrainte d'accepter que, par mon entremise, Allah a libéré les Cachemiris et ils ont eu la victoire sur leurs ennemis. Et il déclare que le peuple cachemiri a été asservi et le gouvernement avait déclaré que les terres du Cachemire appartiennent au roi. Tous les habitants étaient comme les employés du roi et le roi pouvait leur mettre à la porte. Ils n'avaient pas le droit de couper les arbres, ils n'avaient pas le droit de posséder de terres au Cachemire. Ensuite, dans la prophétie, il a été dit qu'il sera connu jusqu'aux confins de la terre. Et cela s'est réalisé à l'époque du deuxième calife. Et bon nombre de missions ont été ouvertes dans le monde, au Sri Lanka, à Sumatra, à l'île Maurice, en Chine, en Bukhara, au Japon, en Égypte, en Irak, en Abyssinie, en Tchécoslovaquie, en Albanie. Et certaines missions ont été fermées après, mais d'autres missions continuent jusqu'à présent. Il y a des missions qui ont été ouvertes aux États-Unis d'Amérique. Dans environ 35 pays, des missions ont été ouvertes. Et il a déclaré que d'innombrables personnes, d'innombrables chrétiens ont embrassé l'islam grâce à moi. Et le tablir est en train de s'étendre. Donc, Voilà quelques points concernant l'accomplissement de cette prophétie. À ce propos, le Messie premier, l'Islam, déclare qu'on doit ouvrir les yeux et constater que ce n'est pas uniquement une prophétie, mais c'est un grand signe céleste, un signe que Dieu a montré pour prouver la véridicité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ce signe est le plus sublime de la catégorie des signes qui suffisent pour faire revivre les morts. Faire revivre les morts signifie que l'on doit prier afin de faire retourner leurs âmes. Allah a accepté mes prières de par sa grâce. Et il a envoyé une personne dont les grâces vont recouvrir toute la terre. Donc, si apparemment ce signe est dans la même catégorie des signes de la revivification des morts, mais ce signe est encore plus sublime. L'âme des morts retourne grâce à la prière. Et ici, on a demandé une âme grâce à la prière. Mais il n'y a pas de comparaison entre ces âmes. Ceux qui sont des apostats parmi les musulmans, en voyant ces signes du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ils ne sont pas contents. Au contraire, ils en sont attristés. Voilà donc l'arrière-fond de cette prophétie et l'importance de cette prophétie et son accomplissement. Et nous devons comprendre l'importance de cette prophétie à la lumière de la dernière déclaration du Messie premier l'Islam. Il y a certains ignorants parmi les Ahmadis qui m'écrivent et ils me posent cette question ici aussi et disent que pourquoi célébrons-nous le jour du Muslim Aoud? Pourquoi ne pas célébrer le jour des autres califes? Il est donc clair pour ces personnes que cette prophétie du Muslim Aoud est une prophétie qui suffit pour faire revivre la foi. Et cette prophétie où ce jour est célébré pour que les gens se souviennent de cet engagement qu'est que nous devons présenter au monde la véridicité de l'islam et du saint prophète Mohammed, paix soit lui. On ne célèbre pas le jour de la naissance ou de la mort du deuxième calife. Dieu a exaucé la prière du Messie premier, l'Islam, et Allah lui a donné ce signe de la naissance de cette personne parmi ses descendants, une personne qui possède des qualités spécifiques, une personne qui est venue établir l'islam dans le monde, une personne qui a tracé les voies pour la Nizam et Jamaat afin que la Jamaat puisse progresser. Donc, nous devons tout le temps comprendre nos responsabilités grâce à ce jour et nous devons user de nos aptitudes pour le progrès de l'islam. On ne doit pas se contenter de tirer un plaisir intellectuel dans l'accomplissement de ce signe, qu'Allah fasse que nous puissions agir ainsi. Il y a un autre point que je veux évoquer ici. Il y a le Majlis Ansarullah d'un pays qui m'a écrit et ils ont déclaré dans leur lettre qu'ils vont organiser un grand programme sportif et il y aura aussi quelques discours. Il n'y aura que peu de discours dans ce programme. Qu'à faire l'Ansarullah avec du sport? Les Ansars doivent porter leur attention vers leur engagement et doivent essayer de marcher sur les voies sur lesquelles nous a guidé le deuxième calife. Le deuxième calife qui a établi le système de l'Ansarullah. Nous devons agir ainsi afin que nous puissions transmettre le message du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans le monde. J'ai l'espoir que l'Ansarullah de ce pays va agir ainsi et va réviser leur programme. Je n'ai pas pris leur nom ici, mais je veux que les gens prennent des précautions à l'avenir à ce propos.